Prions. Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous ouvrons ce matin à nouveau la parole de Dieu dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Nous l'avons lu tout à l'heure et nous avons vu la rencontre de Jésus avec une femme qui n'était pas juive, une samaritaine, c'était à côté d'Israël, et c'était des gens qui adoraient Dieu à partir en fait de la loi de Moïse. Donc c'était une sorte de copie du judaïsme, mais avec des variantes à leur sauce, et sans vouloir se mélanger aux juifs, parce que les juifs au départ n'avaient pas voulu qu'ils se mélangent à eux. Et Jésus rencontre cette femme samaritaine. Ce matin, j'ai donné comme titre à ce message « Lève les yeux et moissonne ». Lève les yeux et moissonne. Jésus, dans l'évangile de Jean, nous l'avons vu, Jésus est venu apporter l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il est venu apporter la bonne nouvelle et nous l'avons vu. Les deux premiers actes publics de Jésus, quand il change l'eau en vin aux noces de Cana, et puis lorsque dans le temple, il chasse tous les changeurs de monnaie, les marchands qui envahissaient le temple, qu'on appelle la colère du temple, nous avons vu que dans ces deux premiers actes publics, Jésus donne la ligne directrice de la bonne nouvelle. La première, c'est la vraie joie. La vraie joie vient de Dieu. Amen. La vraie joie vient de Dieu. Mais pour que cette joie, en quelque sorte, ne tourne pas en autre boudin, la deuxième ligne directrice montrée dans la colère du temple, c'est que le péché n'a aucune place à avoir dans notre existence. Et l'être humain, qui est moribond dans son péché, a besoin de se reconnecter avec Dieu, son Créateur, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et alors seulement une vraie joie peut abonder dans son existence. Et Jésus, donc, après avoir évangélisé Nicodème, évangélise maintenant une Samaritaine. Et les deux lignes directrices sont au rendez-vous dans l'évangélisation de Jésus. Nous avons la femme samaritaine qui est une femme qui trime dans son existence. Elle vient au puits et elle cherche de l'eau. Mais voilà une eau qui ne désaltère que brièvement, que de façon éphémère. Et on sent bien qu'il y a un rapport, une comparaison entre cette eau matérielle qu'elle vient puiser pour boire et l'eau des plaisirs de la vie ou des distractions ou de avec lesquels elle cherche à combler son existence. Et Jésus montrera, tu as eu 5 maris, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Une vie perturbée où elle a enchaîné 5 maris, puis à la fin elle prend même plus la peine de se marier, elle a un copain et puis on verra bien si cette fois je suis plus heureux. A raté avec le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand est-ce que je vais trouver une eau qui me désaltère et qui me désaltère pour toujours? Et Jésus est là, la rencontre et lui annonce qu'il est celui qui peut lui donner cette eau qui désaltère. D'abord Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Ah mais non, mais le puits est profond. Moi, je vais te donner de l'eau. Toi, tu es un juif. qu'est-ce que je peux t'apporter? Et bien sûr, on peut chercher dans le monde une eau qui ne désaltère pas. Comment est-ce qu'un être humain qui reste assoiffé peut donner la solution à d'autres pour ne plus avoir soif? C'est pas possible. On ne peut pas amener les autres plus loin que là où on est arrivé. Et quand on n'a pas encore trouvé l'eau qui désaltère l'âme, on ne peut pas la partager aux autres. Mais Jésus, lui, qui est la source de cette eau qui désaltère, cette vraie joie du cœur, il dit, mais moi, je peux te donner cette eau-là. La joie. Première ligne directrice. Le Seigneur lui dit, si tu viens à moi pour me connaître, tu vas rentrer dans la joie. Seulement voilà, la deuxième ligne directrice, c'est le problème du péché. Et Jésus va mettre cela en évidence. Il lui dit, appelle ton mari. Elle dit, ah, j'ai pas de mari. Il dit, tu dis vrai. Tu dis vrai, t'as pas de mari. Tu as eu 5 maris, et c'est vrai que celui que tu as maintenant, t'es pas marié, c'est pas ton mari. C'est un concubin. Et Jésus met en évidence l'esclavage que le péché, dans lequel le péché tient cette femme. Il dévoile sa vie conjugale tourmentée à cette femme qui a enchaîné les époux et convaincue, elle se tourne alors vers Jésus, le Messie. La joie, cette eau qui désaltère, mais le péché et le besoin de repentance, de demi-tour. Elle se tourne vers Jésus et que fait-elle aussitôt ? Elle part évangéliser tous les gens de sa vie quotidienne, tous les gens qui la connaissent bien et qui savent que c'est une femme de petite moralité, on va dire. Elle a enchaîné les maris. Elle dit, mais elle a rencontré Jésus. Elle s'est tournée vers la joie de Christ par la repentance et la foi. Et aussitôt, maintenant qu'elle a trouvé cette eau qui désaltère, elle peut la partager aux autres. Venez, venez entendre, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et venez voir, il est le Messie, le Sauveur du monde. Venez. Ah, l'évangélisation. Nous avons vu dimanche dernier, au travers du livre d'Ézéchiel, une raison d'évangéliser. De faire comme Jésus, d'annoncer l'évangile, de faire comme la Samaritaine, d'annoncer l'évangile. Cette raison, dans Ézéchiel, c'était que c'est vrai, face à la crainte que nous pouvons avoir des fois à témoigner de Jésus autour de nous, on est timide, on est gêné, on a un peu peur, on n'est pas à l'aise. Ézéchiel nous enseigne qu'il y a une crainte plus grande qui devrait nous pousser à témoigner de Jésus. C'est que lorsqu'en tant que chrétiens nous serons au tribunal de Christ pour faire le point sur notre existence de chrétien, eh bien le Seigneur nous redemandera le sang de tous ceux que nous avons négligé d'avertir, de tous ceux auprès desquels nous n'avons pas ouvert la bouche. Vous vous souvenez de ces paroles d'Ézéchiel, de Dieu à Ézéchiel, si tu n'avertis pas le méchant, si tu n'ouvres pas la bouche, je te redemanderai son sang. Mais aujourd'hui, dans ce passage, Jésus enseigne une seconde raison d'évangéliser. La première, la semaine dernière, nous l'avons vu, Dieu nous demandera des comptes à chaque fois que nous avons fermé la bouche plutôt que d'avertir ceux qui sont en danger de mort face à leur Créateur. Dieu nous demandera des comptes. Mais ici, il y a une deuxième raison que Jésus enseigne Pourquoi est-ce qu'on devrait évangéliser ? Eh bien, en raison de la joie qui est attachée au fait de parler de Jésus, d'annoncer Jésus, de partager cette eau qui désaltère aux autres. Nous allons le voir. Il y a une joie qu'on ne peut pas trouver ailleurs et qui est profondément attachée, liée au fait de parler de Jésus aux autres. Alors, que se passe-t-il dans ce passage ? Parce que la leçon ici, elle est donnée aux disciples. Les disciples, au début du chapitre, où sont-ils donc ? Eh bien, ils ont laissé Jésus tout seul. Ils sont partis dans la ville de Samarie. Nous le voyons au verset 8. Et ils sont allés acheter de quoi pique-niquer pour midi. Les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et c'est midi, et c'est l'heure de manger. Il faut quand même qu'on trouve de quoi... on a des besoins légitimes, celui de manger à notre faim en est un. C'est l'heure du repas, c'est l'heure du repas. Et quand ils reviennent auprès de Jésus, ils le trouvent en grande discussion avec la femme samaritaine, et eux qui ont certainement commencé en chemin à casser la croûte, plutôt que de rentrer dans le travail spirituel qui est en train de se faire. Nous voyons, au verset 30 et 31, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Donc ça, c'était les gens qui arrivaient de l'extérieur. Donc je dis, il y avait tout un travail spirituel qui était en train de se faire. La femme était partie évangéliser, les gens commençaient à arriver. Waouh, la moisson, hein, les gens arrivent là. Mais les disciples, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont revenus auprès de Jésus. Et au verset 31, il dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Or, les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Ça sort d'où ? Pourquoi Jésus a une nourriture ? Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » et d'accomplir son œuvre. Jésus leur enseigne une leçon fondamentale là, parce que dans la suite, il dit, bon, vous dites qu'il y a 4 mois encore jusqu'à la moisson, il dit, non, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et Jésus leur dit, pas le moment de t'occuper de ton estomac. C'est pas le moment. Arrête de me dire tu devrais manger. Là, même si c'est midi, désolé de te le dire comme ça, malgré que ce soit l'heure, c'est pas l'heure. C'est pas le moment. C'est le moment d'évangéliser. Ça oui. Lève les yeux là, de ton pique-nique. De ton repas, de « Oh, c'est midi, à midi, on mange. Hein » On est un peu carré, c'est l'heure. Attends, regarde la foule qui est en train d'arriver. Pas le temps de manger, là. C'est le temps de parler de la bonne nouvelle du salut. Lève les yeux, nous dit Jésus à nous aussi. Regarde autour de toi. Ah, tu es préoccupé par ton repas de midi et tu voudrais même que j'en fasse autant. Eh bien non. Tu es préoccupé de tes besoins légitimes, préoccupé de ta vie, tellement préoccupé que tu ne lèves pas les yeux sur la moisson autour de toi. La moisson, elle est blanche. Regarde. Les disciples, eux, ils n'ont vu que des champs encore verts, c'est-à-dire pas encore mûrs. Je dis, ben non, c'est pas le temps de moissonner. Regarde les champs, le blé, il est vert, c'est pas du tout mûr. Il reste 4 mois avant la moisson. Mais Jésus, lui, il lève les yeux et il voit une vraie moisson d'âme. Il dit, non, regarde, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Pourquoi est-ce qu'il voit du blanc, Jésus? Eh bien, parce que la tenue traditionnelle des Samaritains, c'était de porter une tunique blanche. Et que tous les gens venaient, ils arrivaient de la ville. Jésus était à l'extérieur et sur le témoignage de la femme, voilà les Samaritains qui venaient voir. On leur a dit, j'ai trouvé le Messie. Et voilà qui s'amène. Et vous avez du blanc qui commence à arriver de là, de là, de là. Oh, des épis. La moisson est blanche. Mais les disciples, préoccupés par leur petite course et par leur estomac, ils n'ont pas vraiment relevé la présence des Samaritains, tout de blanc vêtus. Ces Samaritains qui ont besoin de l'Évangile. Est-ce que nous ne sommes pas comme les disciples? Là, maintenant, c'est mon repas de midi qui compte. J'ai les yeux fixés dessus. La moisson, quelle moisson? C'est pour plus tard, sans doute. Nous sommes préoccupés par notre vie quotidienne et nos besoins légitimes. Prenez une semaine qui se passe. Alors, pour ceux qui travaillent ou qui étudient, les actifs, c'est vrai, hein, de 8h du matin à 17h, c'est occupé. Alors, il nous reste le soir. Alors, eh ben, je vais me détendre avec 2 films d'affilée. Hop. Troisième soir, j'invite quelques amis pour l'apéro. Quatrième, qu'une maison se... moins d'impôts en faisant un petit déficit de fonds, ça va marcher, j'investis. Cinquième soir, on est déjà au vendredi, soit dit en passant, mais fin de semaine. Puis voilà le week-end. Le week-end. Mais le week-end, je pars en week-end. Le week-end, je fais du shopping. J'ai pas le temps le reste de la semaine. Le week-end, je fais les travaux de ma maison. Le dimanche, le sabbat, qui me dit de m'arrêter dans mon activité. C'est flexible. Vous voyez comme nos besoins légitimes, parce que ce sont des besoins légitimes. Se détendre, entretenir sa santé, faire du sport, voir des amis. Faire du business, calculer, ordonner son argent, c'est normal. Faire ses travaux, partir en week-end, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand ces choses s'enchaînent les unes aux autres, de semaine en semaine, et qu'elles finissent par nous enchaîner. Quand toutes ces préoccupations de la vie, mon repas de midi, hein, et puis mon travail, mes enfants, j'ai les yeux fixés sur ma vie quotidienne et ça s'enchaîne et ça m'enchaîne parce que je ne lève plus les yeux et on dit et la moisson quelle moisson, pourquoi il me parle la moisson, les champs ils sont verts, enfin à part m'occuper de ma vie à moi, j'ai mon train-train, je ne vois pas de quoi Jésus me parle. La vie chrétienne, c'est pas juste avoir Jésus en plus. Jésus en plus dans mes études. Jésus en plus dans ma vie professionnelle, dans mon business. Jésus en plus dans mes projets. Jésus en plus dans mes loisirs. Jésus en plus dans ma vie. Oui, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est avoir Jésus en plus. Mais ce n'est pas que ça. La vie chrétienne, dit Jésus, prenez le verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La vie chrétienne, dit Jésus, Une vie chrétienne équilibrée, bien nourrie, avec un régime alimentaire équilibré, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si je vis ma vie et que j'enchaîne mon quotidien, mes préoccupations, et que, en fait, faire la volonté de celui qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre, parce qu'il y a une moisson, si cette dimension, je ne la vis pas, je passe à côté de la plus grande dimension de mon appel en Jésus-Christ. Je suis un chrétien qui a juste Jésus en plus dans ma famille, dans mon business, dans mes affaires, dans ma vie, dans mes loisirs. Mais accomplir l'œuvre que Dieu me confie, cette moisson, rentrer dans la moisson, je suis pour l'instant comme les disciples, le nez plongé dans mon sandwich, et je ne vois pas quelle moisson. Et Jésus dit aux disciples comme à nous-mêmes, hey, je ne suis pas le seul à devoir évangéliser, hein, vous aussi. Et il dit aux disciples, levez les cieux. Apprends à lever les yeux de tes préoccupations quotidiennes pour voir la moisson qui est là. Alors, comme les disciples, nous pensons que il va y avoir une sorte de signal majestueux, sonore du Seigneur qui nous alertera quand la moisson sera vraiment là. Vous savez, Jésus leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Il dit non. Regardez les champs qui déjà blanchissent. Nous, on pense que quand ce sera le moment de rentrer dans la moisson du Seigneur, le Seigneur va, je ne sais pas, il va nous attraper, nous secouer tellement fort qu'on aura compris. Il dit, hey, c'est le moment, signal sonore, non? Et on se dit, à ce moment-là, je lèverai les yeux de mes préoccupations quotidiennes. Le Seigneur, il dit, non, 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 tu n'entendras jamais mon signal. Mon signal, il est de parler à ton cœur et de dire, maintenant tu lèves les yeux de tes préoccupations quotidiennes. Des fois, on se dit, bon, ben, la moisson, c'est peut-être demain, dans 4 jours, dans 4 semaines, dans 4 mois, dans 4 ans, dans 4 décennies. Plus tard, le Seigneur m'utilisera sans doute, quand ce sera le moment. Demain, peut-être. Pour le moment, je vois que les champs verts. Seigneur, il nous dit là, il faut que tu arrêtes. Lève les yeux seulement et regarde vraiment. La moisson, c'est maintenant. La moisson, c'est maintenant. Servir le Seigneur, c'est maintenant. Accomplir son œuvre, c'est maintenant. Arrête de te dire que c'est sans doute pour plus tard, quand le moment sera venu. Non, stop, nous dit Jésus. Le moment, c'est maintenant. Alors lève les yeux de ton repas de midi. Lève les yeux de ton écran. Lève les yeux de ton sport. Lève les yeux de tes travaux. Lève les yeux de tes week-ends. Lève les yeux de ton business. Lève les yeux de tes études. Parce que la moisson, elle est là et elle t'attend. Est-ce que nous sommes comme les disciples, les yeux vers le bas, sur nos préoccupations, nos besoins légitimes, je le répète, mais qui en s'enchaînant nous enchaînent et notre regard ne se lève pas pour voir toute la dimension de la vie dans laquelle Jésus veut nous faire rentrer devenir des moissonneurs, faire la volonté de Dieu qui nous envoie pour accomplir son œuvre. La moisson, c'est maintenant. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en acceptant de lever les yeux de nos préoccupations sur le coup, on dit je vais y perdre. Si je lève un peu les yeux de mes préoccupations, je vais rater mon repas de midi. Les disciples, ils allaient rester le ventre vide. Ah, je vais avoir un manque, je vais crever la dalle. Un week-end de loupé. Dommage, il y avait un truc à l'église, évangélisation. Ah, dommage, j'aurais bien pris ce samedi pour continuer, je sais pas moi, mon business. Vous savez, c'est pour ça que Dieu avait donné le sabbat aux Juifs, hein, sinon ils auraient travaillé 7 jours sur 7, le business. Toujours plus. Non, il y a un moment, tu t'arrêtes. Pour moi, dit Dieu. Et alors, sur le coup, on pense qu'on va y perdre. On dit, le problème, c'est que si tu comprends, la vie, elle est tellement comme ça, là, que, il y a le sport, le truc, je peux pas. Si je lève les yeux de mes préoccupations, je vais y perdre. Et là, Jésus nous dit, rassure-toi. Si tu lèves les yeux de tes préoccupations, tu vas avoir une nourriture que tu ne connais pas. Ah, ça, c'est sûr, il dit aux disciples, moi, j'ai une nourriture que pour l'instant, vous ne connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, hein. Vous en êtes comme la femme samaritaine, l'eau qui ne désaltère que de manière courte. Ton sandwich qui va te remplir ton cœur, ton âme, ta satisfaction, voilà. Mais tu auras faim tout à l'heure. Et hein, tu ne vas pas y perdre. Moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture, et ça me remplit vraiment, vraiment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ça me remplit, ça me comble. J'ai loupé le repas. Cette femme samaritaine, les samaritains qui viennent, tout ça, cette œuvre de Dieu, ça me remplit. Et j'ai pas faim. Alors quand on croit qu'en levant les yeux de nos préoccupations, on va y perdre, le Seigneur nous rassure en nous disant, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que tes préoccupations, regarde ta petite vie qui s'enchaîne, en fait, tu es un peu comme la femme samaritaine, tu cours après des bonheurs. Oui, un petit coup d'eau, ça désaltère, ça fait du bien, mais tu es toujours obligé d'y revenir. Et tu veux pas passer à autre chose ? Tu ne veux pas passer à quelque chose qui te désaltère durablement, vraiment. Tu ne veux pas passer à une dimension de ta vie chrétienne un petit peu plus... Où tu te sentes réellement en harmonie avec l'appel de Dieu. Peut-être que dans ta vie chrétienne, tu ressens comme un vide. Des fois, on connaît Jésus, on vient à l'église, on aime le Seigneur. On a Jésus en plus dans notre vie avec nous. Mais on ressent, on se dit je suis chrétien et pourtant je ressens comme un vide, comme une partie de vide, une insatisfaction, comme s'il me manquait quelque chose dans ma joie. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Que dans votre vie chrétienne, vous avez votre quotidien, vos occupations et il y a le Seigneur. Mais vous dites, c'est comme s'il manquait quand même quelque chose dans ma joie d'être humain. Je sais pas, ça me comble pas vraiment complètement. Eh bien, il y a fort à parier que si tu ressens ça, c'est parce que tu ne lèves pas les yeux pour entrer dans la moisson du Maître. Si tu lèves les yeux pour entrer dans la moisson du Maître, Jésus te fait la promesse au verset 36 que celui qui moissonne reçoit un salaire. C'est une promesse de Jésus. Celui qui moissonne
reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez toute cette dimension de la joie. Toute la dimension de la joie. Jésus, il commence avec la femme samaritaine qui cherche de l'eau en plein midi sous le soleil pesant. Et elle est tout le temps obligée de venir au puits. Il dit, moi, si tu me demandes à moi à boire, tu aurais dû de me demander à boire parce que moi, je peux te donner de l'eau vive, une fontaine d'eau qui jaillit dans ton âme jusque dans la vie éternelle. Elle dit, oh, trop bien. Pour les disciples, va acheter ton sandwich. Mais tu auras encore besoin d'un autre sandwich ce soir. Et puis demain, puis après-demain. Et... Mais par contre, tu peux, dans ton âme, avoir une nourriture qui va t'émerveiller, te satisfaire, te combler. Tu vas la savourer. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé pour accomplir son œuvre. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Quand on accomplit l'œuvre de Dieu, il y a une vraie nourriture qui comble notre âme. Il y a une joie unique qui est au rendez-vous. Amen. Jésus le dit et il nous invite à le croire, à franchir le pas par la foi en disant ouais, je ne vais pas y perdre. J'aurais peut-être loupé mon repas de midi. Mais le Seigneur va me remplir de telle sorte qu'en fait, je serais même content d'avoir loupé mon repas de midi. J'aurais pas manqué mon temps. J'aurais pas perdu mon temps. J'ai même pas. C'était le repas de midi. Qu'importe. Ce que j'ai accompli pour Dieu, ce qui s'est passé là, ouh, c'était énorme. Et ça me fait un repas à côté, enfin. Non, ce que je viens de vivre dans cette rencontre, dans le témoignage de Jésus que je viens de donner, dans l'œuvre de Dieu, c'est énorme. Ça m'a rempli, ça m'a donné une pêche, ça m'a donné une joie. Ah ça, je veux pas l'échanger contre un sandwich. Hein. J'aurais eu tort de rater ce moment. Juste parce que c'était l'heure du repas. Et quand on se met dans l'œuvre de Dieu, on expérimente ces choses-là. Ou ce qu'à un moment on pense perdre, et qu'on perd concrètement parlant, t'as loupé ton repas, t'as loupé ton week-end, t'as loupé. Le Seigneur est fidèle, il a dit non, celui qui moissonne, il reçoit un salaire, mais le salaire que tu reçois, c'est bien plus que ton week-end que t'as loupé. T'inquiète, tu ne seras pas perdant. Je vais te donner une joie. Je vais te remplir une nourriture. Tu vas dire, cette nourriture-là, j'ai envie d'en manger tous les jours. Comme cette eau du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui croit en Jésus. Elle est là et elle y reste. Alors, une première raison d'évangéliser, nous l'avons vu, c'est que Dieu nous redemandera le sang de ceux envers lesquels nous avons gardé le silence. Mais une deuxième raison, c'est de gagner une joie et une nourriture pour notre âme qui sont ineffables, inimaginables. Pourquoi ? Parce que notre existence en tant que chrétien, dans notre identité de disciple de Jésus-Christ, notre existence, à ce moment-là, elle se met en phase, en harmonie avec le sens de l'existence que Dieu nous attribue, être des ouvriers dans la moisson. Pour moi, cette année a été instructive à cet égard, cette année 2017. Un peu comme Pierre. Pierre, quand Jésus l'a appelé, il a dit « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Et il le rencontre au bord de l'eau avec ses poissons et il dit « Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. » Et Pierre quitte son bateau, ses filets, et il suit Jésus. Seulement voilà, au moment de la crucifixion de Jésus, Pierre, il ne comprend pas ce qui se passe. bien que Jésus l'avait annoncé. Et il perd le cap. Jésus est mort. Pierre, il est déboussolé, il perd le cap. Qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne à son bateau de pêche. Il retourne pêcher le poisson. Morose, désabusé, déprimé. Et il a perdu la joie. Mais quand Jésus vient à sa rencontre, alors Pierre retrouve le cap de son existence, être un pêcheur d'homme. Et il retrouve la joie en retrouvant le sens de son existence de chrétien. Faire la volonté de celui qui nous envoie et accomplir son œuvre. C'est un petit peu ce que j'ai expérimenté cette année. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Perdre le cap d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et du coup, on se nourrit d'une nourriture qui ne nourrit pas. On retourne à son bateau de pêche, ou à ses projets professionnels, ou ceci ou cela. Et on ne lève plus les yeux. Ou pas souvent. Et du coup, on ne moissonne pas vraiment. Et du coup, on n'a pas la nourriture et la joie qui est fortement attachée au fait d'accomplir l'œuvre de Dieu et de moissonner. Alors, où est-ce que Jésus t'envoie ? Quelle œuvre il veut que tu accomplisses ? Je repose la question, où est-ce que Jésus t'envoie ? Et quelle œuvre est-ce qu'il veut que tu accomplisses ? Eh bien, pour le savoir, commence par lever les yeux de ton rythme, de tes préoccupations, de tes occupations qui s'enchaînent et qui t'enchaîne. Lève les yeux, regarde autour de toi et tu verras que la moisson est prête et que tu peux y travailler. Prenez avec moi Matthieu 9, 36 à 38. Nous terminerons par là. Matthieu 9. Verset 36, Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce que cette foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Où Jésus t'envoie-t-il ? Quelle œuvre veut-il que tu accomplisses ? Pour le savoir, juste décide et apprends à lever les yeux de ton repas de midi, de ton écran, de tes sorties, de ton travail. Chose légitime, tant qu'elle ne t'enchaîne pas. Lève les yeux et tu verras la moisson. Les disciples ont appris à lever les yeux. Là, dans ce chapitre-là, ils n'avaient pas encore appris à lever les yeux pour voir ces Samaritains qui arrivaient. Ils étaient là à embêter Jésus dans un moment fort où Jésus accomplissait une œuvre de salut dans le cœur de la femme samaritaine, dans le cœur de tous ceux qui arrivaient sur son témoignage. Ils arrivaient, c'était un moment, c'était le moment. Et eux, ils sont là, non, mais vas-y, mange, casse la croûte, quoi, tu n'as pas mangé, allez, mange, mange. C'est pas le moment. Ah, les disciples, ils n'étaient pas... Mais ils ont appris. Et quand Jésus est retourné au ciel, tous les disciples sont partis aux quatre coins du monde pour évangéliser. Ils ont rejoint le sens de leur existence de chrétien. Faire la volonté de celui qui les a envoyés et accomplir son œuvre. Et tous les disciples, sauf Judas qui a trahi, mais tous les disciples l'ont fait. Ils ont vécu, ces disciples, une existence pleine. Ils ont vécu une existence pleine de la même nourriture que Jésus. Jésus leur avait dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais, quand Jésus est retourné au ciel, les disciples, ils ont compris. Et, ils ont levé les yeux de leurs préoccupations. Ils ont quitté leur bateau de pêche. Et ils ont témoigné de Jésus autour d'eux. Ils sont rentrés dans la moisson. Et ils ont vécu. Est-ce qu'ils ont perdu ? Non, ils n'ont pas perdu. Ils ont gagné. Parce qu'ils ont vécu une existence pleine de la même nourriture que Jésus, pleine de la joie de celui seul qui sème et qui moissonne. Il y en a qui sèment, il y en a qui moissonnent, et ils se réjouissent ensemble. Ils ont vécu cette existence pleine. Or, mes amis, ce matin, réfléchissons. Est-ce que comme les disciples, nous avons le nez dans toutes les choses de notre vie qui se succèdent, qui s'enchaînent, qui sont légitimes, qui nous occupent, qui nous préoccupent, mais qui, nous devons le reconnaître, finissent par nous enchaîner, de telle sorte qu'on n'est pas des chrétiens qui sommes capables de lever les yeux et de voir la moisson. Si c'est notre cas, le Seigneur nous dit maintenant stop, il faut que tu rejoignes le sens de l'existence à laquelle je t'appelle. Moi, je ne t'appelle pas juste à vivre avec Jésus en plus. Non, je t'appelle à rentrer dans la moisson. Et je t'appelle à rentrer dans la moisson pour que tu aies une joie, une vie pleine de la même nourriture qui remplissait Jésus, même s'il sautait son repas. Est-ce que tu veux vivre ça ? Alors lève les yeux et moissonne. C'est maintenant. Prions. Seigneur, nous voulons ce matin vraiment entendre ta voix, examiner notre vie, notre existence, notre vie de chrétien, le sens de notre vie de chrétien. Peut-être, Seigneur, tu mets en évidence peut-être ce matin qu'en tant que chrétien, nous ressentons peut-être comme un vide, comme une insatisfaction. On sent qu'il manque quelque chose à notre joie. Ne serait-ce pas, Seigneur, le fait de rentrer dans ta moisson ? Seigneur, aide-nous à cesser de reporter à plus tard, à penser que la moisson, le jour où tu nous utiliseras vraiment, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Convainc-nous, Seigneur, par ton esprit, que le moment, c'est maintenant. Et que nous puissions simplement lever les yeux et moissonner. Parce que nous verrons que la moisson est prête. Aide-nous à cela, pour que notre existence, Seigneur, rejoigne le sens, le seul sens véritable que tu veux donner. Faire ta volonté à toi qui nous envoie dans ce monde et accomplir ton œuvre. Merci Seigneur, parce qu'alors, tu ne nous déçois pas. Tu n'es pas un menteur, tu tiens tes promesses. Nous ne perdons pas. Nous gagnons une joie, une nourriture, une plénitude que seul le moissonneur peut connaître. Merci pour cela. Que notre existence, Seigneur, puisse devenir pleine de la même nourriture que Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions, ô notre Dieu. Amen.